Je vous invite ce matin à aller dans le dernier livre de la Bible, donc celui de l'Apocalypse, et nous irons au chapitre 3 pour lire une lettre que Jésus a adressée à travers l'intermédiaire de son apôtre Jean à une église d'Asie mineure, l'église de Laodicée. Nous sommes donc dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Voilà ce que le Seigneur dit. Il commande à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, puisses-tu être froid ou bouillant ? Mais ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, dit le Seigneur, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le titre de ce message est encore une fois assez accrocheur pour nous amener à la réflexion, toujours dans cette thématique du réveil. Et je veux poser cette question, y a-t-il encore place pour un réveil dans les églises ? Plus que toute autre chose, le réveil est avant tout une fraîche révélation et une puissante présence de Jésus-Christ au sein de l'Église. Alors, s'il y a une Église dans les Écritures qui a vraiment besoin d'un réveil, c'est celle de Laodicée. Laodicée est une Église donc à qui le Seigneur s'adresse parmi sept autres Églises. Et vous l'avez peut-être entendu, ces lettres aux sept Églises d'Asie, sont souvent comprises comme un survol prophétique de l'histoire de l'Église. Et Laodicée, qui est la septième et la dernière de ces églises mentionnées, est alors comprise comme représentant l'église des derniers temps. Malheureusement, il faut bien constater qu'à cette église, le Seigneur lui adressa que des reproches. Maintenant, quand les reproches viennent des hommes, on en fait ce qu'on veut. Mais quand il y a des reproches qui viennent de Jésus-Christ, il faut les entendre. Nous ne pouvons pas faire la sourde oreille. Et le plus grave des reproches que le Seigneur adresse à cette assemblée, c'est qu'il n'était plus présent au milieu d'elle. Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte. Et je dirais du mauvais côté de la porte. Non pas intérieur, mais extérieur. Et alors nous nous poserons ce matin ces deux questions, et bien sûr nous extrapolerons au-delà de Laodicée pour nous intéresser à notre temps, puisque l'église de Laodicée semble représenter l'église des derniers temps. Et nous poserons cette question, est-ce que l'église de Laodicée était encore capable de retrouver le chemin du réveil, le chemin de la présence de Jésus-Christ au milieu d'elle? Et même, autre question, le voudrait-elle véritablement? En confirmation de l'interprétation courante que je viens de mentionner, Laodicée représentant l'Église des derniers temps, il faut constater que beaucoup des caractéristiques de cette Église mise en avant par Jésus se retrouvent dans notre génération. Je vais les détailler ensuite. Et donc, plus qu'à n'importe quelle autre époque, nous devons prêter attention à cette courte lettre. Les caractéristiques, les reproches que Jésus adresse à Laodicée sont autant de levains qui menace la bonne pâte. Nous sommes une pâte nouvelle, une pâte fraîche, mais nous sommes exposés à un levain qui est ambiant dans notre génération. Une génération qui est repue d'elle-même. Et à cause de cet environnement, le Seigneur nous a prévu, le mal augmentera, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes sous la menace d'une église qui s'attiédit et d'une église qui perd sous l'influence des levains de ce monde ce que doit être le but premier de son ministère, glorifier Jésus-Christ. Alors que retenir des paroles que Jésus adresse à cette église de Laodicée ? Laodicée était une église avec toutes les caractéristiques d'une assemblée premièrement organisée et structurée, à qui tout semblait réussir. Une assemblée prospère, en tout cas matériellement. Une assemblée qui était certainement même en pleine croissance. Bref, a priori, l'église de Laodicée, à vue humaine, était une église en pleine santé. Seulement, c'était une église qui fonctionnait sans l'essentiel. Elle pouvait avoir toutes sortes de programmes, toutes sortes de richesses, mais il lui manquait Jésus. Et le pire, c'est qu'apparemment personne ne s'en était rendu compte. Et tout le monde était satisfait des choses telles qu'elles fonctionnaient dans cette assemblée. Tout allait bien et certainement on ne tarissait pas d'éloges les uns sur les autres. Peut-être y avait-il même l'apparence et même la teneur d'un fonctionnement biblique dans cette église. On disait c'était merveilleux. Mais le problème c'est que Jésus n'était plus au centre de cette assemblée. Et si vous y prenez garde, vous comprendrez qui était au centre. C'était l'église elle-même. L'église avait remplacé Jésus lorsqu'elle dit « Je suis riche, je n'ai besoin de rien ». Et lorsque Jésus l'amène, le témoin fidèle et véritable, l'étalon de la mesure de Dieu, comme il se présente dans ce livre de l'Apocalypse, révèle et révéla à cette assemblée les choses telles qu'elles étaient. Je connais. Jésus connaît toutes choses. Il connaît toutes choses concernant nos vies, toutes choses concernant notre assemblée, toutes choses concernant ses églises. Et lorsque le Seigneur a passé l'étalon de la mesure au milieu d'elle, clairement, elle n'a pas passé l'épreuve du jugement, sans concession, mais vraie de Jésus. Et là où cette église estimait avoir réussi, elle a reçu de sévères reproches. Tu es tiède. Malgré tout ce que tu peux entreprendre, tu es tiède. Là où elle pensait être parfaite, Jésus lui a montré la réalité selon Dieu. Malgré tes richesses, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Là où elle s'attendait à des éloges, elle écopa d'une menace de rejet. Je te vomirai de ma bouche. Quel fracas pour cette église! Quel fracas pour cette assemblée! Mais ce qui est merveilleux, parce que Jésus est comme cela, ce jour-là, il n'a pas tiré un trait irrémédiable sur cette église. Parce qu'encore voulait-il lui prodiguer des conseils? Encore la pressait-il de le chercher et de chercher auprès de lui les véritables éléments de la richesse? J'ai été interpellé par un verbe. Je le mets entre parenthèses, je n'ai pas eu le temps d'y travailler, mais je me suis promis d'y travailler. J'ai noté au verset 18, je te conseille d'acheter. Et ce verbe m'a interpellé, acheter. Jésus n'est-il pas celui qui donne gratuitement? Et je me suis dit, il faudra vraiment travailler sur ce verbe. Pourquoi le Seigneur dit donc à cette église, achète de moi? Peut-être parce que dans cette assemblée, on avait tout appris à négocier avec l'argent. Et on était tellement riches. Alors le Seigneur, c'est un peu comme il a dit au jeune homme riche, va et vends tout ce que tu as. Eh bien, tout ce que tu crois être, vends-le et achète, puisque tu as l'habitude d'acheter. Et achète de moi les véritables trésors. Mais ça vaudra le coup quand même de creuser cela. Et surtout, le Seigneur voulait lui manifester sa patience et son amour. Je ne suis pas loin. Non, le Seigneur n'était pas parti, il était à la porte. Du mauvais côté, certes. Mais il frappait toujours, avec le désir de souper avec ceux qui répondraient à son appel. Mais c'est vrai que son appel a quelque chose de tragique. Il y a un double si. Si quelqu'un entend, et en quelque sorte, s'il ouvre la porte, comme si Jésus n'était même plus sûr que quelqu'un le ferait. Et c'est là que je pose encore ces questions. Y avait-il encore de la place pour Jésus dans cette église de Laodicée? Et quand je dis Laodicée, je me permets d'extrapoler. Et pour nous poser la question, si véritablement Jésus trouve sa place dans toutes les églises et dans nos églises et dans nos ministères aujourd'hui. Au-delà de son sentiment de réussite, cette église était là dans un confort, dans une assurance, elle avait réussi, mais véritablement, y avait-il encore de la place chez elle pour un réveil? Entendrait-elle l'appel de Jésus? Plus encore, désirerait-elle véritablement la présence de Jésus au milieu d'elle? Et nous essaierons de répondre à ces questions tout à l'heure. Essayons de comprendre les problèmes de Laodicée. Donc, Jésus n'est plus à l'intérieur de cette église, il est à la porte. Alors je pose cette question. Au nom de quoi ces gens se rassemblaient-ils? Vous connaissez la parole du Seigneur? Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc si Jésus n'est plus présent au milieu d'eux, c'est qu'il estime que le rassemblement de l'église de Laodicée n'est pas un rassemblement en son nom. Peut-être eux ont-ils l'impression de se rassembler en son nom, mais ce n'est pas parce qu'on invoque et on dit Jésus, Jésus, que forcément Jésus est au milieu d'eux. Seigneur, Seigneur, je ne vous ai jamais connu, a dit Jésus. Mais alors, au nom de quoi se rassemblait-il? Qu'est-ce qui avait donc pris la place du Seigneur au milieu d'eux? Et cette chose qui a pris la place du Seigneur était tellement subtile qu'elle berçait les croyants de Laodicée dans l'illusion qu'ils étaient encore dans les voies du Seigneur. Notez toutefois, pour vous qui connaissez les lettres aux églises d'Asie, que le problème de Laodicée n'avait rien à voir avec une question de fausse doctrine, ni même une question d'impudicité. Ça, Jésus le traite dans d'autres églises. Mais à Laodicée, il n'y avait pas ce genre de situation, ce genre de reproche. Les problèmes de Laodicée étaient des problèmes d'une dérive. Dériver. Dériver, c'est s'écarter de son cap, s'écarter de sa direction sous l'effet d'un courant. La dérive est due donc à l'opération de courants puissants et de courants profonds. Vous savez que les océans de ce monde sont parcourus par des courants qui les traversent de part en part. Eh bien, il y a aussi des courants qui traversent les églises. Des courants puissants, des courants profonds, des courants invisibles. Et comme eux, comme les courants océaniques, les courants qui traversent les églises changent profondément leur nature, influencent sur leur température. Mais les courants qui passent dans les églises ne sont ni des courants chauds, ni des courants froids, comme il y en a dans les océans, sont des courants tièdes. Ce sont là les dangers. Les dangers, ce sont les courants tièdes, les courants de la température humaine. Nous sommes l'homme est tiède quelque part, à 37 degrés. Nous sommes ni bouillants, ni froids. L'homme est tiède dans sa température. Eh bien, nous devons prêter attention, parce que nous sommes dans le temps de Laodicée, et des courants tièdes menacent d'emporter nos assemblées. Et Laodicée a été emportée par un courant, et elle s'est éloignée de ce qu'elle devait viser, c'est-à-dire Jésus. Elle l'avait même perdu de vue, jusqu'à ne plus remarquer son absence. Plus personne ne remarquait que Jésus n'était pas là. Mes frères et sœurs, s'il existe un risque majeur pour beaucoup d'églises contemporaines, ce n'est pas tant celui des fausses doctrines, oh bien sûr, il y a toujours des fausses doctrines, mais à plus vaste échelle, le risque majeur auquel nous sommes confrontés, c'est celui des dérives. Il y a des courants qui passent, des courants qui traversent le monde, des courants invisibles, des courants puissants, des courants profonds. Alors arrêtons-nous sur deux dérives de l'église de Laodicée et malheureusement de beaucoup d'églises contemporaines. Jésus les met en évidence en quelque sorte. La première dérive, c'est un centrage excessif sur l'homme. Jésus n'est plus au centre, c'est l'homme qui est au centre. Et deuxième dérive, nous y viendrons, c'est l'attrait pour la performance. Donc je dis la première dérive, premier courant de fond qui passe et qui peut passer dans les églises de notre génération, c'est un centrage sur l'homme. Laodicée aimait se conjuguer à la première personne du singulier plutôt qu'à la personne divine. À Laodicée, on ne disait pas « toi Seigneur », mais « moi je ». Moi je. Beaucoup d'églises commence à ressembler à la Laodicée sur ce point. Beaucoup d'enseignements. Et il y a véritablement un courant de fond que j'appellerais soit anthropocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Centré sur l'homme. Des messages centrés sur l'homme, avec le risque de produire des chrétiens plus attachés aux bénédictions et aux promesses qu'au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et on le fait. Et comment Dieu veut te bénir, Dieu te bénir, etc. Au lieu d'apporter la gloire au Seigneur. Deuxième dérive au sujet de, toujours dans ce sens, c'est non pas anthropocentrique, mais ecclésiocentrique. Ça veut dire centré sur l'Église. Il y a, mes frères et sœurs, un danger qui monte, qui est celui de voir des chrétiens plus attachés à une église pour ce qu'elle représente qu'à Jésus-Christ. Ils ont communion avec l'église, mais pas avec Jésus. Ils ont communion avec le corps, mais n'ont pas communion avec la tête. Je le dis, c'est un risque majeur de dérive de nos églises aujourd'hui, surtout quand, à travers les médias, la télévision en particulier, qui produit de très grands courants, eh bien, des enseignements passent, des enseignements apportant des choses agréables aux oreilles, comme le dit Paul, et de ces hommes qui en font leur fond de commerce, avec des choses toutes faites, toutes dites, vous êtes des champions, vous êtes des ceci, vous êtes des cela. Ça me rappelle ce que Paul écrit aux Corinthiens, eh bien, vous commencez à régner. Et les gens sont imprégnés de ces paroles. Le plus extrémiste de ces courants anthropocentriques, c'est celui de la prospérité. Certes, la prospérité et l'argent sont des thèmes bibliques, il n'y a pas de problème, nous avons déjà abordé ça, mais tel qu'il le présente, il le dévoie pour flatter la chair de l'homme. Et comme à Laodicée, on veut dire « je suis riche ». Et on poursuit la richesse comme un bien ultime à atteindre. Mais notre héritage n'est pas sur terre, il est dans les cieux. Je comprends que dans des pays où il y a la pauvreté la plus abjecte, les gens ont besoin d'être encouragés dans ce sens. Mais il y a des pays où c'est simplement pour flatter la chair de l'homme que l'on prêche ce genre de message et d'enseignement. Plus subtil. Et là, je pense que, mes frères et sœurs, ça concerne particulièrement nos sociétés occidentales. Plus subtil, mais en plein développement, les prédications coaching ou mentoring. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les années 90, les années 2000 ont été les années de la relation d'aide. Les années dans le monde, les années des psychologues. Aujourd'hui, on ne va pas voir son psychologue. C'est la mort à petit feu de Freud et de Lacan. On va voir son coach. On va voir son coach. Parce que nous sommes dans une société qui met l'accent sur la réussite, le succès immédiat, avec des gens profondément insécurisés. Mais je dis que dans notre société, on est passé du psychologue et du psychanalyste au coach parce que les gens ne veulent plus s'asseoir sur le divan pour parler d'eux-mêmes, mais ils veulent des clés pour réussir immédiatement. Et cette chose que nous voyons dans la société, nous la retrouvons dans l'Église. Et les années 2000 ont été les années de la relation d'aide. Et les années 2010 sont les années de la prédication du prédicateur coach. Ce n'est pas exhorter le coaching. Ce n'est pas enseigner le coaching. C'est apporter quoi ? C'est apporter des messages simples et stimulants. Des messages centrés sur les besoins courants et des messages surtout qui procurent des clés pour réussir. Première étape, première clé, deuxième clé, et vous aurez le succès. Mais surtout, des messages qui ne sont pas introspectifs, qui ne parlent pas de repentance, qui ne parlent pas d'iniquité, d'un besoin de pardon et de restauration, de sanctification. On veut des techniques, on veut des méthodes pour réussir, pour se développer, en évitant d'aborder les sujets douloureux qui fâchent. A priori, le coaching peut paraître comme un bon moyen dans les églises d'encourager les gens à vivre pleinement les promesses de Dieu dans leur vie. Et on veut les accompagner dans ça, et ça fait partie du ministère pastoral. Seulement, si il n'y a que des prédications de coaching, nous gardons les gens dans leur faiblesse. Ces messages-là sont volontairement positifs, non confrontationnels, Au lieu de parler de péché, de repentance, de restauration, de renouvellement, de guérison intérieure, on va plutôt parler d'épanouissement, de développement. Mais si le cœur n'est pas guéri, on bâtit sur rien du tout. Sur le sable, comme le Seigneur le disait dans la parabole. Alors nous avons là des gens qui sont attachés davantage à une certaine réussite humaine et terrestre, à une certaine performance, plutôt qu'à Jésus-Christ. En exagérant, je le dis, je le fais exprès, Jésus n'est plus le centre, il n'est plus le but, mais il devient un moyen au service d'une nouvelle finalité, l'épanouissement de l'homme. Les conséquences. Comme à Laodicée, les gens croient être vêtus, mais devant Dieu, ils sont nus. Tout n'est qu'apparence, mais sans réalité, sans consistance. Ils sont humainement enthousiastes, mais Dieu les trouve tièdes. Ni froids, ni bouillants, ils sont à la température de l'homme. Ils sont malheureusement incapables de développer une communion avec le Saint-Esprit par eux-mêmes. Incapables de se nourrir, incapables d'avancer avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu dans la vie chrétienne. Ils sont surtout sans conviction solidement ancrée dans leur cœur. N'ayant entendu parler que de réussite, n'ayant entendu que parler de promesses, lorsque vient le vent de l'épreuve, ils ne sont pas enracinés dans le rocher de la parole de Dieu et ils seront emportés. Ils se croyaient forts, ils sont faibles. Alors le coaching peut être une bonne chose pour encourager les gens, les amener dans l'accomplissement de leurs rêves, les amener à vivre quelque chose de plus grand. Oui, c'est très bien. Leur montrer comment mieux agir, comment mieux vivre, tout ça. Mais le danger, c'est quand ce genre de message d'enseignement devient le courant fort. Courant fort qui traverse les églises. Et alors là, il y a un risque de dérive et donc de naufrage au premier vent contraire. De seconde dérive, le culte de la performance, l'obsession de la réussite. C'était un problème aussi à Laodicée. Maintenant, je veux dire que rechercher la croissance et la réussite n'a rien d'antibiblique. Ne sombrons pas dans des excès inverses. L'Église est un corps vivant, elle est appelée à croître. Une Église qui ne grandit pas, il y a un problème. Un enfant qui ne grandit pas, il y a un souci, on est inquiet. Une Église qui ne grandit pas, ce n'est pas normal. Et parce que l'Église est aussi pleine du Saint-Esprit, elle est appelée à accomplir des exploits merveilleux. Maintenant, de notre pauvre France, spirituellement parlant, n'imaginons pas à quel point de nombreuses églises, de nombreux ministères en tout genre connaissent des croissances fulgurantes, avec les corollaires de richesse, de puissance et d'influence. Pour nous, la plupart du temps, dans nos églises en France, nous comptons au mieux en milliers d'euros et en quelques centaines de personnes, mais dans bien des pays, et pas simplement qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, les budgets de beaucoup d'églises ou d'œuvres chrétiennes s'élèvent en millions, dizaines de millions de dollars, s'étendent sur des dizaines de pays et influencent des foules considérables. Et il y a des ministères qui peuvent dire « Maintenant, nous nous sommes enrichis !» Seulement, croissance et réussite présentent des risques de dérive dans lesquels l'église de Laodicée avait sombré. À Laodicée, on disait « Je suis riche », c'est l'autosatisfaction. « Je n'ai besoin de rien », de l'autosuffisance. Et quand elle dit ça, ce n'est pas simplement vis-à-vis des autres églises. Mais surtout vis-à-vis de Jésus. Je suis riche sans Jésus presque. Je n'ai besoin de rien, même pas besoin de Jésus. Tout fonctionne. Certains spécialistes de la croissance des églises sont allés jusqu'à analyser les facteurs propres à assurer une véritable croissance aux œuvres missionnaires et églises. Ils ont même élaboré des stratégies pour favoriser cette croissance. Et ils ont fini par développer de véritables modèles et techniques de croissance fondées sur ces principes. On parle d'organisation, de marketing, de communication, jusque dans l'homilétique. L'homilétique, c'est la façon de prêcher la parole de Dieu. Tout est calculé, tout est calibré. Et je vais vous dire, ça produit du résultat. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Et les églises grandissent énormément avec l'application de ces principes. Encore une fois, sur le fond, il n'y a pas de problème avec ces choses, on essaye de mieux s'organiser. Mais le problème vient lorsque la recherche de la croissance et de la réussite deviennent le centre, la motivation de la vie de l'Église, des chrétiens et non plus Jésus. C'est une dérive. On s'est écarté. On s'est écarté de notre but. Notre but, ce n'est pas la croissance. Pour la croissance, ce n'est pas la réussite. C'est Jésus. C'est Jésus. La poursuite de la croissance et de la réussite deviennent une dérive dès lors qu'on se dit qu'on a un modèle qui tourne tout seul. Oui, on allait trouver les clés de la croissance. Quand on commence à penser, nous avons tout, nous savons faire. Quand on se dit, nous n'avons même pas besoin d'un réveil, nous avons la croissance. Il y a des quantités d'églises aujourd'hui, ou d'œuvres missionnaires, ou d'œuvres chrétiennes, qui grandissent d'une manière fulgurante sans connaître le réveil. Le réveil, c'est une chose, la croissance, c'en est une autre. Une église qui grandit, n'est pas forcément une église en réveil. Un réveil amène une croissance, mais il y a des croissances qui ne sont pas le fruit d'un réveil. Et c'est ce que Jésus reprochait à cette assemblée. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi prêcher le réveil à Laodicée. À Laodicée, on n'avait pas besoin d'un tel message. On se croyait riche, puissant et suffisant. Pourquoi aurait-on pris alors le risque de tout remettre en question par la prédication du réveil? Parce que la prédication du réveil, c'est un risque. Refaire venir Jésus au centre de l'Église, c'est un risque pour le fonctionnement de cette Église. Parce que lorsque Jésus revient au centre de l'assemblée, la première chose qu'il va montrer, c'est la misère dans laquelle l'église de Laodicée se trouve. Elle qui se croyait si forte est maintenant nue, pauvre et misérable. Ces risques sont des levains. Ils sont nés dans notre société. Ils sont ambiants. Et beaucoup d'églises sont allergiques. Et dès que ces levains passent, pouf, elles les prennent. Ce sont des courants de fond puissants qui traversent le monde entier. Et nous devons y prendre garde. Nous devons y prendre garde. Puisque c'est la parole du Seigneur pour notre génération. Je voudrais maintenant avancer dans le point suivant, il sera beaucoup plus rapide. Je voudrais m'arrêter sur l'appel de Jésus. Il y a deux choses dans l'appel de Jésus à l'égard de cette église de Laodicée, des choses poignantes malgré tout. Jésus exprime un désir de revenir à sa juste place au milieu de ceux qui s'appellent les siens. Il veut revenir dans l'église. Il veut retrouver sa place. C'est quand même, quand on y réfléchit, lui le Seigneur, lui le chef de l'Église, lui l'époux bien-aimé, ne trouve plus sa place dans une Église. Mais comme nous l'avons vu dans l'appel de Jésus, il y a aussi une interrogation tragique sur la capacité des croyants de Laodicée à l'entendre et à vouloir le faire rentrer, un double si, une double condition. Arrêtons-nous sur l'idée d'abord de replacer Jésus au centre. Pour Laodicée, le réveil ne pouvait passer qu'en laissant Jésus revenir dans l'église et en le replaçant au centre, et donc en délaissant une spiritualité dérivante, superficielle, centrée sur l'homme, pour revenir vers Jésus, vers la prédication de l'évangile, vers le message qu'on entend peut-être de moins en moins, celui de la croix, mais dont nous sommes bien conscients que c'est le seul qui peut changer notre génération. Mais bien sûr, vous trouverez, et vous le pensez, je ne dis pas que vous l'acceptez, mais vous en doutez bien, il est beaucoup plus facile de prêcher « vous êtes des champions » plutôt que d'amener les gens à se replacer face à Golgotha. Ou alors d'amener les chrétiens jusqu'au trône de Dieu pour contempler sa gloire et le servir. Placer Jésus au centre, c'est bien plus que de revenir à une prédication centrée sur lui. Ça va même au-delà. Ce que ça veut dire que, comme Jean le disait, il me faut diminuer. à un moment où les hommes veulent grandir. Jean nous dit, il nous faut diminuer pour que lui croisse. Il faut diminuer. Nous disons souvent, Seigneur, je veux plus de toi. Quand la Bible nous dit, d'abord, moins de nous. Moins de nous, et il y aura plus de Jésus. Nous disons encore, donne-moi, Seigneur. Quand l'apôtre Paul nous dit, offrez-vous. Le réveil commencera quand nous conjuguerons moi à la première personne du singulier et que nous nous efforcerons de donner sa place au Seigneur. Dernière question, les croyants de Laodicée étaient-ils encore alors capables de vivre un réveil ? Dans cette génération, sommes-nous capables de vivre un réveil ? Je ne parle pas d'un temps de visitation, mais d'un véritable réveil qui se communique comme un feu brûlant à ceux qui nous entourent. Pour revenir à ce que je disais dimanche dernier, combien sont prêts à accepter le feu du réveil, le feu du fondeur, le feu de l'embrasement par rapport à ceux qui ne veulent être que réchauffés, égayés par un feu de camp ? Si vous êtes près d'un feu de camp, vous serez tiède. D'un côté la chaleur, dans le dos le froid, et au milieu le tiède. Et le Seigneur nous vomira de sa bouche. Ce que Dieu veut, c'est que comme les compagnons de Daniel, nous soyons au milieu de la fournaise. Et c'est là que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, se manifeste dans sa gloire. Prêcher « Vive le réveil » a un coût terrible parce qu'il expose à la lumière de Christ. Parce que le Seigneur nous dit « Je connais ». Je réfléchis, Seigneur, si un jour tu dois me dire ces choses, je connais. Je dois les entendre. Je dis, Seigneur, prépare-moi à entendre ces choses. Si l'Église doit entendre, notre assemblée, votre assemblée, si vous êtes de passage, doit entendre un jour cette parole « Je connais ». Accrochons-nous. Accrochons-nous. Et peut-être avons-nous besoin de l'entendre. Mais le message du réveil, c'est ça. C'est un message qui commence par faire un bilan, qui nous dit les choses telles qu'elles sont. Un message sans complaisance, non selon les critères des hommes, mais selon Dieu. Et prêcher, vivre le réveil a un coût terrible parce qu'il implique de restaurer et de garder le cap. Rester centré sur Jésus. Abandonner les voies puissantes, les voies plaisantes, pardon, qui sont autant de courants puissants, de courants profonds, qui traversent les océans des églises et qui ne sont que des doctrines qui plaisent aux oreilles. Nous voulons encore entendre l'appel de Jésus. Et nous voulons prêter attention au Seigneur. Es-tu là ? Si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Tout ce que nous faisons ne sert à rien. Que ce soit dans l'Église, dans notre vie, si tu n'es pas là. Nous voulons prêter attention à la présence de Jésus-Christ. Et si le Seigneur nous dit un jour, je suis à la porte, que nous puissions entendre. Si quelqu'un entend ma voix, et si l'ouvre la porte pour moi, deux conditions. L'entendre, arriver à l'entendre et vouloir se lever pour le faire. Le Seigneur doit certainement souvent verser des larmes sur ses églises. Juste ce point. Vous avez l'habitude pour beaucoup de fréquenter, d'aller sur... de lire différentes choses, différents livres ou différents articles sur tel ou tel site internet. Et souvent, certains réagissent d'une manière très vive aux dérives de Laodicée. Et ils comparent l'église de Laodicée, l'église des temps contemporains, à une espèce de Babylone. Et leur message est très simple. Quittez l'église, qui n'est qu'une Babylone. Quittez Laodicée. Je note que ce ne sont pas les paroles de Jésus. Jésus n'a jamais pressé un croyant de Laodicée à quitter Laodicée. Au contraire, le Seigneur a cherché à rentrer dans cette église. Nous l'avons déjà dit, Jésus n'enterre pas les églises qui paraissent mourir. Il les refait vivre. Pourquoi ? Parce que lui a donné sa vie, son sang pour elle. Et il aime. Il aime plus que tout. Un père, une mère, qui a un enfant qui grandit, qui fait des bêtises. Un époux, une épouse, qui a partagé du temps avec son épouse, son mari, son épouse. Les chemins du cœur font que malgré tout ce qui peut nous arriver, il y a des liens qui sont là. Et malgré les souffrances, on est comme ce père qui voit son fils prodigue revenir et prêt à le serrer, à l'aimer. Jésus n'est pas un maître, il est un époux. Et même vis-à-vis de l'épouse qui a dérivé, ses bras sont ouverts et son cœur est aimant. Plus nous avançons dans les temps du retour de Jésus, plus nous avertit-il, cela deviendra difficile de vivre le réveil. Le mal s'accroissant et le mal s'accroît. L'amour du plus grand nombre se refroidira. La tiédeur humaniste et matérialiste gagne de plus en plus le cœur des croyants. Et le levain de Laodicée est en train de se répandre dans beaucoup d'églises. Le seul moyen de guérir cela, c'est de replacer Jésus au centre.